Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le 20 avril 2021. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure en français sur SBS, sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, nous parlerons de l'actualité française, hein, comme chaque mardi, et nous partirons discuter d'un atelier artisanal par une petite ONG australienne. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour ce 20 avril. Les sites de vaccination de masse, des vaccinodromes, donc prévus pour stimuler le déploiement du vaccin dans le pays. Vaccin contre le Covid-19, bien entendu. Le chef des Nations Unies qui se déclare alarmé parce qu'il appelle un rapport effrayant sur le climat. Et en sport, on va le voir, la création d'une Super League de football et une des stars des Sydney Kings qui quitte la NBL et qui jouera en NBA. C'est du basket. Débute donc ce journal avec la campagne de vaccination en Australie, vaccination contre le Covid-19, et le fait que les vaccins Pfizer et AstraZeneca ne soient pas mis en œuvre assez rapidement. Donc cette campagne a de nouveau été soulevée au sein du gouvernement. À Melbourne, 3 sites de vaccination de masse, donc des vaccinodromes proposant le vaccin AstraZeneca, seront prêts à ouvrir leurs portes dès demain. Le Premier ministre Scott Morrison et les dirigeants des États et des territoires sont parvenus lundi à un accord de principe pour faire vacciner ou faire avancer la vaccination de plus des 50 ans et de préparer des sites de vaccination donc de masse pour le reste de la population. Cependant, le plan, qui sera décrit en détail à partir de jeudi, nécessite un approvisionnement et une distribution plus importante des vaccins. Jusqu'à présent, 1,59 million de doses ont été administrées à l'échelle nationale et c'est bien en deçà de l'objectif initial du gouvernement fédéral. Le médecin Norman Swan a déclaré sur ABC que plus de personnes de 50 ans devraient être vaccinés et ce le plus rapidement possible, et ce n'est pas le cas et considère ça comme un problème majeur. On l'écoute.
We should be ramping up to 200,000 vaccinations a day. General practice will play a role in that, but you're only going to get there with the states playing a part. So residential aged care is still getting every valuable Pfizer dose when Astra would be just as effective with elderly people, and you save every Pfizer dose for a healthcare worker, a disability worker under 50, and then in the under 50s age group, because it's just not being used productively in the aged care sector. I do not know why they're not pivoting.
Voilà, donc le médecin Norman Swan. Allez, direction cette nouvelle, le gouvernement néo-zélandais qui défend le temps qu'il aura fallu pour ouvrir les frontières aux voyageurs australiens. C'est la bulle entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La Premier ministre Jacinta Ardern a déclaré sur ABC que le retard visait à garantir le moins de perturbations possibles. On l'écoute.
For us, it was all about making sure that when we did it right. You know, that period of time that we've taken to make sure that the risk is as low as possible should also mean that we reduce how much disruption travellers might experience. We know much more about the virus now than we did, you know, even at the end of last year. We use short, sharp lockdowns if required. So my view is by taking that time, we can ensure we have something that, whilst may have disruption from time to time, is much more consistent.
Donc la première ministre néo-zélandaise Jacinta Ardern. Alors, vous le savez, une bulle, donc cette bulle avec la Nouvelle-Zélande a été ouverte depuis hier. Reportage depuis l'aéroport de Sydney avec notre collègue Grégory Pless.
Après plus d'un an sans pouvoir voyager à l'étranger, c'est enfin l'heure des retrouvailles. Katie vient d'atterrir à Sydney. L'occasion, enfin, de pouvoir serrer ses parents dans ses bras.
We haven't seen each other for 14 months.
On ne s'est pas vu depuis 14 mois. Heureusement, il y a Zoom et Messenger. Mais dès que Jacinda a annoncé la rouverture des frontières, j'ai acheté un billet.
Anna aussi vient tout juste d'arriver à Sydney pour voir ses parents. Et comme beaucoup de passagers aujourd'hui, elle avait presque oublié ce que ça fait de prendre l'avion.
C'était vraiment une drôle d'impression. Un peu comme si on avait fait quelque chose d'interdit. Mais c'était très excitant.
côté des départs aussi, ça s'agite. Et même si en Nouvelle-Zélande, un seul nouveau cas de Covid peut provoquer la refermeture des frontières, Mike et sa famille sont prêts à prendre le risque.
On préférerait ne pas se retrouver coincé, mais si ça devait arriver, il y a des endroits bien pires. On est sûr que tout ira bien.
Et si tout va bien, justement, cette bulle pourrait s'agrandir d'ici quelques mois. L'Australie envisage de rouvrir ses frontières à quelques pays peu impactés par la pandémie, comme par exemple Taïwan, Fidji ou encore Singapour.
Et c'était Grégory Place, donc à l'aéroport de Sydney. À noter une dernière minute, eh bien, un travailleur de l'aéroport d'Auckland a testé positif au Covid-19. On en saura un petit peu plus dans le courant de la journée. 13h05. Depuis des années, Christina Kennelly, la shadow minister de l'immigration et de la citoyenneté, eh bien, demande la libération d'une famille tamoule, la famille Bioela. La famille donc, de 4 personnes est sur l'île de Christmas Island depuis plus de 1000 jours après que le tribunal fédéral ait confirmé une décision selon laquelle le traitement par le gouvernement de la demande de visa de la plus jeune fille qui vient de la ville régionale de Bioela, donc dans le Queensland, a nié son équité procédurale. Madame Kennelly a déclaré à ABC qu'elle avait eu de la chance pour parler directement à la famille. On l'écoute.
Priya is clearly lonely and depressed in detention. Even as we sat in the sterile visitors room in the detention center, it's clear she's an extrovert. She loves being around people. And during our visit, she spoke often of her desire to go home to my community in Bilo, as she called it. You know, she was involved there in local church groups. She volunteered at the local hospital. And you know, she tells me she doesn't want anything from the government except just a chance to work and raise her family.
Donc c'était Christina Kennelly. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sonne l'alarme pour ce qui lui, je cite, dit être un rapport effrayant sur le climat concernant 2020, qui aurait été l'une des 3 années les plus chaudes jamais enregistrées. 2020 a été marqué donc par des feux de brousse, des sécheresses, des inondations, la fonte des glaciers et la montée du niveau des mers. On écoute le chef des Nations Unies.
2020 was 1.2 degrees Celsius hotter than pre-industrial times. We are getting dangerously close to the 1.5 degrees Celsius limit that was set by the scientific community. We are on the verge of the abyss. The 6 years since 2015 have been the hottest on record. In June, temperatures reached 38 degrees Celsius at Verkhoyansk in Russia, the highest recorded temperature anywhere north of the Arctic Circle.
Donc Antonio Guterres, le chef des Nations Unies. Aux États-Unis, le procès pour meurtre de l'ancien policier Derek Chauvin, meurtre de George Floyd, ce procès se termine. Derek Chauvin avait étouffé, je vous rappelle, George Floyd en l'épinglant au sol pendant 9 minutes et 29 secondes, c'était en mai dernier. Les actions de l'ancien policier à l'époque, selon les procureurs, étaient imprudentes, déraisonnables et justifiaient une condamnation non seulement pour homicide involontaire, mais également pour 2 chefs de meurtre. L'avocat de la défense de Derek Chauvin a déclaré au jury que les actions de son client suivaient les directives de force raisonnables par les policiers en considérant tous les facteurs impliqués le jour de la mort de George Floyd. On écoute donc l'avocat de la défense de Derek Chauvin.
A reasonable officer will hear the words that the suspect is saying. I'm a good guy, I'm a good guy, I'm a good guy, I'm claustrophobic. And he's going to compare those words to the actions of the individual. Right? Because this is part of the analysis. Because I can say I'm going to cooperate with you, I'm going to do whatever I want. But if my behavior is inconsistent with what I am saying, a reasonable officer takes that into consideration.
Voilà donc pour le procès. Les commentaires d'ailleurs d'Éric De Salve. Il était au procès pour RFI.
Oui, c'est le procureur qui a commencé son réquisitoire avec un chiffre 9 minutes 29 secondes. C'est le temps pendant lequel Derek Chauvin a maintenu son genou sur le cou de George Floyd. C'est ça, rien d'autre qui l'a tué, martèle l'accusation. L'afro-américain est mort d'asphyxie, pas d'overdose ni d'insuffisance cardiaque comme le prétend la défense. Le procureur rappelle aussi l'analyse d'un témoin clé, le chef de la police de Minneapolis, venu témoigner contre Chauvin pour dire que l'attitude de l'ex-policier n'était en rien conforme aux procédures. C'est le procès de Derek Chauvin, pas celui de la police, dit le procureur. Cette affaire et simple, conclut-il. Ce n'était pas du maintien de l'ordre, c'était un meurtre. Mais l'accusation, oui, c'est vrai, en face, plaide l'acquittement en contestant toutes les accusations. La défense, pardon, selon ses experts, Chauvin a non seulement respecté le protocole, mais il n'est pas directement responsable de la mort de Floyd. En tout cas, les plaidoiries sont maintenant terminées. Le jury se retire pour délibérer dans un endroit maintenu secret. Impossibilité de communiquer avec l'extérieur tant que le verdict ne sera pas trouvé. Ces délibérations peuvent durer quelques minutes, comme quelques jours, voire même plusieurs semaines.
Et c'était Eric Desalves pour RFI. Human Rights Watch demande au gouvernement australien d'intervenir dans le cas d'un résident permanent australien qui a été condamné à 25 ans de prison en Chine. Les autorités disent que la peine est bien pour des activités séparatistes liées à une visite en Turquie. Mais son épouse, Mirzat Taher, est à Melbourne. C'est une sentence sans fondement qu'elle a été et qu'elle est préoccupée par le bien-être de son mari. Le gouvernement australien affirme qu'il se limite à fournir un soutien consulaire aux citoyens australiens et non pas en résidence permanente. Sophie Richardson de Human Rights Watch affirme que la durée de la peine de prison fait de ce cas un exemple extrême.
Absolutely horrified, gobsmacked by a 25-year sentence. That's really at the outer limit of what we've documented, except for people who've been given life sentences. And one recommendation we've made over the years is that governments that have citizens or legal permanent residents who are themselves detained or who have family members detained, that hopefully governments will really go to bat, especially for those kinds of cases.
Journal des sports maintenant, et on commence avec du basketball. Et pour la deuxième année consécutive, une des stars de Sydney Kings quitte le championnat australien, quitte la NBL pour aller jouer en NBA, donc aux États-Unis. Didi Luzzada a été autorisé donc à voyager aux États-Unis alors qu'il se prépare à rejoindre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, donc la NBL qui perd une de ses stars. Sur le mouvement olympique, le gouvernement du Queensland dépensera plus $1 milliard pour réaménager le stade de Gabba comme une pièce maîtresse pour les Jeux Olympiques de 2032. Si les Jeux Olympiques donc arrivent à Brisbane, si la candidature est validée, la première ministre du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré sur ABC qu'elle ne pouvait pas être plus heureuse, juste un jour après avoir reçu l'approbation du cabinet de l'État, donc pour cette offre de rénovation du Gabba. On l'écoute.
This is fantastic news. We've been keeping this under wraps for a few weeks now. We had the big unveiled to the cabinet yesterday, and then today, of course, the public get to see it. And of course, we are really proud, and this is a really exciting opportunity. So the opening and closing ceremonies would be here. The Gabba would be completely rebuilt. It would be lifted, so there would be actually a pedestrian plaza over Main Street. So no more concerns about families, walking up and down the streets with traffic.
Voilà donc Anastasia Palaszczuk pour le reste du sport. Restez à l'écoute, c'est tout de suite après ce journal. Allez, coup d'œil météo pour le pays à travers donc le pays pour aujourd'hui. À Perth, du soleil, 25 degrés. Adélaïde, il pleuvra et il fera 19 degrés. Pareil à Melbourne, il pleut d'ailleurs pour l'instant à Melbourne, et une température de 18 degrés. Des averses à Hobart, 15 degrés. Des averses également à Canberra, 19 degrés. Du soleil à Sydney, 26 degrés. Du soleil à Brisbane, 27 degrés. Des averses à Cairns, 28 degrés, et du soleil à Darwin avec 34 degrés. Rappel des grands titres de l'actualité. Donc pour aujourd'hui, des sites de vaccination de masse, des vaccinodromes prévus pour stimuler le déploiement du vaccin à travers le pays. Et le chef des Nations Unies, on l'a entendu, qui se déclare alarmé, très alarmé, pour ce qu'il appelle un rapport très effrayant sur le climat. Voilà, c'est tout pour le journal. Pour aujourd'hui, courte pause et on se retrouve pour le sport dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
journal des sports et un journal des sports un peu spécifique. Aujourd'hui, on va parler eh bien, de la Super League. Vous en avez peut-être entendu parler, mais 12 clubs de football donc, ont décidé eh bien, de créer leur propre ligue à eux. On parle du Milan AC, d'Arsenal, l'Atlético Madrid, Chelsea, Barcelone, Inter de Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham, donc les Spurs, ont donc décidé de créer une ligue bien à eux et de sortir de la Champions League. C'est un séisme dans le football international, comme nous l'explique la ministre des Sports française, Roxana Maracineanu. C'est une interview de nos confrères de Radio France.
Bah autant hier, on pouvait penser que c'était le dernier bras de fer, le sursaut d'orgueil de ces clubs qui sont dans un championnat très dense et qui ont du mal en général à se qualifier pour la Ligue des Champions. Autant là, le sujet devient sérieux et ce serait un véritable séisme si cette Super League voyait le jour. Pour le football européen, bien sûr, mais surtout, je pense, pour le sport mondial de manière générale.
Que doit faire l'UEFA ? Elle doit exclure ces clubs comme Manchester United, Barcelone, Chelsea, la Juventus de Turin ne peuvent plus accéder à la Ligue des Champions parce qu'ils ont fait sécession.
Aussi bien l'UEFA que la FIFA se sont montrés solidaires avec un certain nombre de gouvernements, dont le nôtre, l'État français. Nous devons faire confiance aux instances sportives pour ne pas laisser faire n'importe quoi dans le monde du football, parce que ce serait vraiment une rupture entre les plus riches et le reste des clubs. Aujourd'hui, dans cette période sanitaire difficile pour tout le monde, nous avons besoin de solidarité entre les différents pays, entre le monde professionnel, le monde amateur. À ce stade, il faut que nous nous en remettions à la capacité de ces instances sportives à prendre des décisions et que nous, États, arrivions aussi à sécuriser ces décisions, que ce soit au niveau national, mais aussi peut-être au niveau européen.
Mais vous, vous appelez l'UEFA à exclure ces clubs ?
Je pense qu'il faut réagir pour ne pas les laisser faire n'importe quoi, comme votre journaliste l'a dit tout à l'heure. De toute façon, cet argent provient d'un seul et même gâteau, donc cela dévaloriserait un bon nombre de championnats nationaux, évidemment les compétitions européennes, voire mondiales. L'argent ne vient pas de nulle part.
Je rappelle l'enjeu, hein, si on exclut de toute compétition européenne les clubs et leurs joueurs, ça veut dire que Griezmann, Varane, Pogba, tous ces joueurs qui sont des piliers de l'équipe de France ne pourront pas participer à l'Euro de football.
De toute façon, ces décisions doivent être sécurisées, puisqu'il y a une jurisprudence qui a déjà montré que lorsque des organisateurs privés organisent des compétitions, si on veut les exclure, les personnes qui y participent, c'est pas si simple que ça. Donc aujourd'hui, je crois que l'Union européenne doit aussi prendre ses responsabilités par rapport au sport européen. Il existe des pays aujourd'hui avec des liens très forts entre l'État et leur fédération, comme en France par exemple, comme en Slovénie, et d'ailleurs c'est pas anodin, puisque le président de l'UEFA est slovène, lui aussi. La présidence de l'Union européenne sur la fin de l'année, c'est la Slovénie qui l'aura. Et elle est bien décidée à faire avancer cette notion de modèle sportif européen qui permettrait non seulement au football, mais aussi aux autres sports, de sécuriser un peu le monopole de l'organisation des compétitions sportives. Mais c'est pour cela que je disais tout à l'heure que l'Union européenne, à un moment, avec les États qui la composent, doit aussi se positionner. Mais avant tout, ce sont les instances sportives qui doivent réagir.
Mais juste un euro sans Raphaël Varane ou Paul Pogba, c'est une possibilité aujourd'hui.
Ah bah aujourd'hui, il y a 12 clubs, et parmi ces 12 clubs, ce sont les meilleurs clubs avec les meilleurs joueurs qui se sont positionnés pour ce championnat en club VIP pour aller à la conquête du monde, mais à une conquête du monde qui se baserait uniquement sur du marketing et sur du commercial et pas sur du sportif. Envisager un championnat qui perd son âme et qui n'est plus basé sur des critères sportif, ni d'accession à ce championnat, ni même de compétition, c'est
inacceptable.
Oui, c'est triste en fait.
Voilà donc pour la Super League de football qui a donc été créée. Reste à voir si cela sera mis en action. C'est tout pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le journal en français. Vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite. c'était Freda et cette chanson Le Murmure des Champs qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'avril sur Radio SBS. Il est 13h23, courte pause et on va décrypter l'actualité en France de ces 7 derniers jours avec Émile Matasso. Tout de suite après ça.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, comme chaque mardi, place à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une, les partis de gauche et de l'écologie qui tentent de se rapprocher en vue de l'élection présidentielle de 2022.
Oui, dans un an, nous y serons. Le premier tour de l'élection présidentielle, cela fera 5 ans qu'Emmanuel Macron a été élu, porté par cet élan ni gauche ni droite, mais les deux à la fois. Le chef de l'État a réussi à faire exploser l'échiquier politique traditionnel. Et aujourd'hui, la gauche, plus encore que la droite, ne s'en est pas remis. C'est dans cette optique que les dirigeants de gauche, socialistes, communistes, France insoumise et les écologistes se sont réunis samedi, répondant à l'appel lancé par le député européen d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Comment exister à la prochaine élection présidentielle? Comment ne pas être de simples spectateurs d'un scrutin qui écarterait la gauche et les écologistes du second tour, où tous les instituts de sondage vous le disent aujourd'hui, ce second tour de la présidentielle 2022, il semble promis, comme en 2017, à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen, la représentante de l'extrême droite, présidente du Rassemblement national. Comment briser ce duo Macron-Le Pen? Cette question planait autour des discussions de samedi. Alors tous ces leaders de gauche et de l'écologie réunis dans un hôtel du 19e arrondissement de Paris, tous enfin presque, hein, puisque Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, crédité à la dernière présidentielle 2017 de 19% des suffrages tout de même, eh bien, il est d'ores et déjà candidat à la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon, et il n'est pas venu à ce rassemblement, il s'est fait représenter, car pour lui, il l'a dit déjà, pas question de renoncer à sa propre candidature. Et c'est bien cet égoïsme, cet égocentrisme des leaders de la gauche qui rend l'équation impossible. Hein. Yannick Jadot, il estime par exemple, lui, qu'il est le mieux placé, même s'il ne le dit pas de cette façon si directement, mais le mieux placé pour incarner ce projet d'écologie citoyenne, écologie progressiste, mais dans son propre camp, chez les écolos, d'autres laissent penser qu'ils rêvent eux aussi le matin en se rasant de la présidentielle, comme Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, ou Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Yannick Jadot, en tout cas, durant ce week-end, eh bien, à défaut de ramener la France insoumise dans le débat, il a montré qu'il était prêt à s'allier avec les socialistes, ou ce qu'il en restait. Anne Hidalgo, la socialiste, maire de Paris, était là. Elle aussi rêve d'incarner le projet commun pour la présidentielle de l'année prochaine. Mais pour l'instant, les sondages montrent que les Français, eh bien, n'adhèrent pas vraiment au projet d'Anne Hidalgo, même si elle n'est pas officiellement candidate, avec des intentions de sondage de 6%. Pour elle, pas plus. Alors, qui sera le mieux placé pour incarner ce projet? Les participants ont convenu de se revoir bientôt, au mois de mai. L'idée étant, eh bien, avant de parler des personnes et d'un ou d'une candidate unique, eh bien, l'idée étant d'avancer sur un semblant de projet commun, avancer des idées, une plateforme commune en vue de cette présidentielle de 2022. Nous assumons l'idée, a expliqué Yannick Jadot, nous assumons l'idée de nous revoir pour engager un processus en vue d'une plateforme et d'un candidat commun.
Alors pendant ce temps-là, eh bien, le président de la République, Emmanuel Macron, répondait en anglais à la chaîne américaine CBS.
Et il s'adressait indirectement aux Français, Emmanuel Macron, bien entendu, tout en répondant en anglais à Margaret Brennan dans l'émission de CBS News, Face the Nation. Le chef de l'État, vous diront les éditorialistes, les politologues, il a déjà, lui, lancé sa campagne en vue de cette présidentielle de l'an prochain. Alors bien sûr, il n'a pas encore dit qu'il serait candidat, mais on sent bien que toutes ces décisions, ces prises de parole depuis plusieurs semaines maintenant, sont prises dans cette cette optique-là, sa réélection en 2022. Et en s'exprimant eh bien, sur CBS, en anglais, s'il vous plaît, Emmanuel rend les lieux culturels. Ce qui peut paraître surprenant, c'est que le président, depuis 15 jours, il insiste sur ce calendrier-là. Mais rien ne permet d'affirmer que les chiffres de l'épidémie le permettront dans un mois. Les bars, les restaurants, les cinémas sont fermés depuis 6 mois. En France. Mais aujourd'hui, la situation sanitaire est tout sauf sous contrôle. La situation est même pire qu'en décembre, janvier ou février. On vient de passer le cap des 100 000 morts du Covid-19 en France depuis le début de l'épidémie il y a plus d'un an. Et chaque jour, ce sont toujours en ce moment entre 30 000 et 40 000 nouveaux cas positifs Covid-19 qui sont recensés. Alors pourquoi donc Emmanuel Macron tient-il ce discours malgré tout? Bien déjà, pour garder l'espoir et donner un horizon aux Français, alors que le printemps est là et que vous n'avez toujours pas le droit de sortir à plus de 10 km de chez vous, que le couvre-feu est là tous les jours, imposé, dès 19h, il faut rentrer chez soi. Le président qui s'accroche à l'espoir de voir la courbe des contaminations enfin chuter quand le nombre de vaccinés dans le pays aura pris le dessus sur le virus. Et dans cet entretien à CBS, Emmanuel Macron a confirmé qu'à cet égard, dans l'immédiat, la France n'envisageait pas d'utiliser le vaccin russe, Sputnik V. Il n'est pas reconnu par nos autorités, a avancé le chef de l'État, bien qu'il manque des vaccins, des doses de vaccins en France en ce moment. Et il l'assume, expliquant vouloir donner la priorité à la production